Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien.
Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Vous savez que c'est quoi? C'est... Jaffa, c'est... Jaffa, c'est mon premier amour et ça me fait toujours plaisir d'être là spécialement. Ça fait un an que j'ai assisté au dernier Jaffa. Juste avant de commencer, je vais me mettre à genoux, puis je vais prier. S'il y en a qui veulent se mettre à genoux avec moi, vous êtes bienvenus. Père éternel, Dieu trois fois saint, toi qui es Dieu au-dessus de toutes choses, toi qui es créateur du ciel et de la terre, je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si admirable et tes œuvres sont impénétrables. Père, en ce moment que je vais partager mon témoignage, j'implore, Seigneur, la promesse de Luc 12:12, qui dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous allons dire ou comment nous allons le dire, parce que à la dernière heure, le Saint-Esprit va nous dire, va nous enseigner quoi dire et comment le dire. Je te remercie, Seigneur, pour l'accomplissement de cette promesse en ce moment. Et je te remercie, Seigneur, pour la joie que tu mets dans mon cœur de partager mon témoignage. Et je te prie d'être avec mes lèvres afin que ça soit compréhensible. Et en ce moment, Seigneur, je te prie pour... Je sais qu'il y a plus qu'une personne dans cette salle qui te cherche, qui ne sait pas quoi faire. Et qui sait que cette personne a soif, mais il ne sait juste pas quoi faire, Seigneur, tout comme c'était ma situation. Alors, je te prie, Seigneur, de faire une intervention divine en ce moment, dans mon cœur et dans le cœur de ses participants. Au nom de Jésus, sa gloire. Amen.
Amen.
J'aimerais aujourd'hui, je veux tout simplement ouvrir mon cœur, et vous parler un petit peu de mon expérience. Avant, c'est quoi? Et si on a le temps, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je vais changer mes lunettes. OK, mon nom est Obed d'Orléans. ça fait drôle de parler de moi-même, parce que je n'aime pas parler de moi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire de moi? En fait, nous sommes dans un contexte de formation sur la véritable éducation. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille adventiste qui est pratiquante adventiste et tout ça. Ça a bien été. Très tôt dans ma vie, je crois que j'avais ce sentiment de la crainte de l'Éternel. Et les gens disent que j'étais très tranquille, très docile, mais très tôt dans ma vie, j'avais cette crainte de l'Éternel et puis ce désir de le servir. Sans nécessairement savoir le servir à quoi ou ça veut dire quoi. Donc, j'étais très jeune, j'étais très, très impliquée à l'Église, dans les orateurs et dans tout ça. Sur le point académique, j'ai toujours très bien performé à l'école. Pas parce que je suis intelligente, mais parce que je ne me perçois pas comme étant une femme intelligente, mais parce que j'ai toujours été assez persévérante. Dans mes études, en fait, je suis très slow pour l'apprentissage. Mais parce que j'avais plus de temps, j'y arrivais. Et à être toujours dans la moyenne, un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc, j'ai fait mon cégep. J'ai fait mon cégep, j'ai fait mon université. J'ai travaillé dernièrement. Mon dernier emploi, c'est en service social, dans un hôpital psychiatrique, où est-ce que j'ai travaillé pendant 8 ans de temps. Pourquoi je vous explique ça? C'est que, dans un contexte de véritable éducation, je crois que j'ai le profil de la parfaite élève qui a commencé du début à la fin, qui n'a jamais arrêté. J'ai pas eu beaucoup de déchets dans ma vie non plus. Tu sais, en termes de matière scolaire, j'ai pas pris d'année sabbatique pour faire autre chose. Donc, ma vie a été assez linéaire sur le plan académique. Mais c'est étonnant que même lorsque je travaillais, J'avais un très bon travail, très bien rémunéré. J'avais une auto, maison, famille. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie?
Un chien.
Je n'aime pas les chiens, mais en fait, ce que je veux dire, j'avais des dettes, des cartes de crédit. Au niveau du statut social, j'étais très correcte en tant que telle. Mais étonnamment, j'ai toujours eu ce vide à l'intérieur de moi que je ne savais juste pas c'était quoi et comment le faire, et comment combler ça. Et ce vide, je crois que je l'ai beaucoup plus... J'ai été consciente de ce vide à partir de 2008-2009. Donc, ce que je faisais, c'est que j'étais impliquée à l'église dans toutes sortes de choses. J'étais à l'église, j'étais dans toutes les sauces. Responsable de département, j'étais vraiment très impliquée. Et aussi, je me suis rendu compte que à partir de 2010, j'ai commencé à sentir que j'étais assoiffée de quelque chose. Et ce début-là, ça a commencé avec Jonathan Luther. En 2010, quand il a fait la conférence « Qui enverrai-je ?». Et j'avais senti, à la suite de sa prédication, que je disais, « Seigneur, oui, envoie-moi, je veux que tu m'envoies, mais faire quoi ?» Et là, il avait son sermon qui parlait, « L'appel pour toi », c'est ça, tu sais, « L'appel pour toi ». Là, il racontait son histoire personnelle, et en étant colporteur, j'écoutais ça, c'est la première fois que j'entendais parler de colporteur, et dans ma tête, je me disais, « Non, vraiment pas. » 2011, je me suis impliquée dans Jaffa. 2011, je me suis impliquée dans Jaffa. Je suis devant. 2011, je me suis impliquée dans Jaffa et c'était à ce moment-là que nous avons eu notre première conférence à Sainte-Foy, où est-ce que c'était tout tourné. Encore une fois, Jonathan a fait une prédication et cette prédication m'avait énormément interpellée. Au point que lorsque nous avons terminé la conférence, j'ai passé une heure dans mon auto et je pleurais. Je pleurais, j'arrivais pas, je dis, Seigneur, je veux te servir, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire. Et je travaille, j'ai des obligations, comment veux-tu? Je ne peux pas lâcher. C'est ça la question. Je ne peux pas lâcher mon travail. Je ne peux pas lâcher aussi mes amis, ma famille pour te suivre. Donc, c'était ça, cette réflexion-là qui se faisait. Et là, nous étions en 2011. Et ce qui est arrivé, c'est que je suis demeurée avec ce vide, cette soif. Vous savez, si vous comprenez l'histoire de la femme samaritaine qui a soif, mais elle ne sait pas comment étancher cette soif jusqu'à ce que Jésus vienne à elle. Alors, c'était un petit peu comme ça que je me sentais. Donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que les circonstances de la vie, le travail, ce qui me dérangeait le plus, c'était que j'avais jamais de temps pour Dieu. J'avais pas de temps pour avoir une qualité de vie, parce que je travaillais tellement, l'église prenait tellement de place, la famille prenait tellement de place, que je n'avais pas de temps de qualité pour Dieu. Mes prières, mes dévotions, c'était des choses minutes, c'était toujours très rapide, certaines fois j'avais une certaine profondeur, mais après ça, mais j'étais épuisée, mais surtout, puis des fois j'en parlais avec mes amis, je disais, j'ai pas de temps pour passer du temps de qualité avec Dieu. C'est, Seigneur, je veux, mais j'ai pas de temps. Et j'ai crié à lui et au Seigneur comme ça pendant près de 3 ans. Parce que je lui dis, je veux, mais j'ai pas de temps. Jusqu'à ce que, au niveau de mon travail, il me coince, ou est-ce que je me rends compte que j'étais même plus capable de travailler comme je le voudrais. Et surtout, ce qui arrivait, c'est que dans le système de santé dans lequel que nous vivons, que vous le voulez ou non, vous êtes des cobayes et que il y a beaucoup de choses expérimentales qui se font. Et à un moment donné, dans la dernière année que je travaillais, je n'étais plus capable de voir comment est-ce que les patients étaient traités. Pas que les patients étaient traités mal, mais c'est parce que plus vous étudiez la Bible, plus vous avez connaissance et là vous apprenez au sujet de, du message de la santé. Vous aimeriez ça pouvoir appliquer chez vos patients. Et c'était difficile. La structure de santé ne me permettait pas de m'investir comme je le voudrais. Et aussi, il y a des choses tellement simples, comme par exemple, tu avais un patient qui est en dépression, mais on mettait beaucoup plus l'emphase sur la médication, alors que des choses simples, d'encourager à sortir, l'alimentation, des choses comme ça, ça a été prouvé que ça apportait beaucoup de bienfaits. Donc, mais ça, c'était difficile. Donc, de plus en plus, j'ai tout fait dans mon milieu de travail, et de plus en plus, je me sentais pas à l'aise et j'étais toujours, je me sentais comme en contradiction avec mes valeurs que j'apprenais et l'application que j'en faisais avec, auprès de la clientèle de ce que j'ai fait. Cela étant dit, à un moment donné, j'ai juste craqué puis j'ai dit, oh Seigneur, c'est assez, j'ai compris, je vais partir, mais j'ai pas encore le courage. Parce que vous savez, l'une des choses qui est très difficile, c'est que lorsque vous êtes confortable, dans un milieu, de sortir de votre milieu, de votre zone confort. Et j'avais déjà pensé à faire ma maîtrise, puis là, je me suis dit, mais pourquoi aller faire ma maîtrise? Parce que je suis une fille pratique. Je ne vais pas aller étudier pendant 2 ans quelque chose juste pour avoir un papier sur mon mur, et puis après ça, ça ne va rien me servir. Parce qu'en service social, comme dans la première profession que j'avais étudiée, on vous apprend beaucoup de choses théoriques, mais en pratique, vous en appliquez 15%? Parce que dans mon domaine, si on prend le domaine social, on applique 15%, c'est énorme. Imaginez tout le 85% qui a été juste appris juste pour faire des examens puis dire OK, c'est reconnu. Donc, ça, c'était quelque chose dont j'avais laissé faire la maîtrise. Et quelqu'un m'avait dit oh, ben, pourquoi tu n'es pas superviseur de stage? Fait que j'ai été 2 ans dans superviseur de stage, pensant que ça allait atténuer ce sentiment-là. Bon, tout ça pour dire que finalement, après réflexion, puis aussi avec la famille, on avait eu des difficultés au niveau de la famille qui m'a aussi beaucoup remise en question. Là, j'avais décidé que, Seigneur, j'arrête, je prends une année sabbatique. Je crois que ça a été la plus grosse décision de ma vie, de prendre une année sabbatique. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais arrêté de ma vie. Et aussi parce que c'est très insécurisant. Je suis une anxieuse de nature, mais de dire que je prends une année sabbatique, mais pour faire quoi? À ce moment-là, j'ai commencé à prier là-dessus et ça m'a pris à peu près 5 mois jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux. Ça a été la première fois lorsque Dwayne Lemon est venu à Montréal. Et tout est comme ça, à la fin de sa prédication, il a parlé de Take One Mission. Et je dis, ah, intéressant. L'école, je ne savais même pas c'était quoi, qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça mangeait, une histoire médicale. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à un petit peu fouiller une histoire médicale, qu'est-ce que c'est. J'avais eu une année auparavant une amie qui. Quelqu'un que je connaissais qui avait été dans une école médicale aussi. Mais elle ne me disait pas plus qu'il en faut. Je disais, ah, OK. Mais pour moi, c'est weird. Missionnaire médical, mais ça fait quoi? Tu t'en vas, tu étudies, puis quand je regardais sur le site, ça a l'air bien, c'est un beau concept. Pour moi, c'est un très beau concept, mais qu'est-ce que ça va me donner dans ma vie? Parce qu'on a ce mindset que mais ça ne me donne pas un diplôme, ça ne me donne pas une reconnaissance, je n'ai pas plus d'argent. C'est dans cet état d'esprit-là que j'étais. Donc, pour faire une histoire courte, où est-ce que je veux en venir vous donner cette introduction-là, c'est que souvent, nous sommes assoiffés et on a soif de quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On essaye de le combler par toutes sortes de choses, que ce soit des relations de travail, les amis, l'Église, et souvent, on s'épuise même à l'Église. Mais ça ne comble pas ce vide. Et finalement, j'ai compris que ce qui me manquait dans ma vie, c'était de savoir quelle était ma mission. Qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse de ma vie? Est-ce que j'avais toujours cette impression que la finalité de ma vie n'était pas nécessairement mon métier actuel. Et j'avais cette impression que Dieu m'appelait à autre chose, c'est juste que je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, il me permet, par un concours de circonstances, d'entrer en contact avec Tekoa Mission et de commencer ma formation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tekoa Mission, c'est comment c'est en français? Self Support Ministry?
Ministère indépendant.
C'est un ministère indépendant qui a pour but de éduquer et équiper les jeunes afin qu'ils puissent terminer leur. Pour nous, souvent, c'est très. Tu sais, on entend le message des trois anges, on entend parler que Jésus revient. Pour moi, c'était quelque chose qui était très lointain. OK, oui, Jésus revient. OK, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais encore là, c'était quelque chose qui était un peu vague, qui était un peu loin. En arrivant à Tekoa, on se rend compte que, premièrement, qu'on ne connaît pas grand-chose. Même si on est à l'église, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je n'ai jamais entendu parler. Il y a tellement de livres d'Ellen White qui ne sont même pas traduits en français. Et il y a des sujets, la manière qu'on les aborde, c'est complètement différent. C'est quoi, Michel? Lorsque je suis arrivée, c'était tout d'abord un choc. Parce que la vie est tellement différente. Lorsque je suis arrivée, je suis habituée à être toujours faire mes affaires, toujours très vite, puis on se dépêche, puis on est timé. Lorsque je suis arrivée là-bas, j'étais encore sur ce mode vite. Et, les choses doivent se faire vite. J'étais à la cuisine. Je n'étais pas capable de sentir les gens qui prenaient leur temps dans la cuisine pour couper les légumes. Je disais, hey! Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un me dit, relax. Puis là, j'ai compris que j'étais tellement stressée que. Ben, en fait, que mon stress était là depuis tellement longtemps que je ne me suis jamais rendu compte que même manger, je mangeais vite. Donc, j'ai dû apprendre à slow down, à ralentir. J'ai dû apprendre à ralentir, puis ça a été bien. C'est quoi, Michel, le lieu physique? C'est une école missionnaire qui est située au New Hampshire, qui est à 5 heures de Montréal, qui n'est pas très loin. Et c'est fun parce que nous sommes sur une montagne. Et vous savez que lorsqu'on regarde les premières écoles comme Avondale, Madison, l'une des recommandations des Lenoirs, c'était que nos écoles devaient être en dehors de la ville. Pourquoi être en dehors de la ville? C'est tout simplement pour une question d'influence. Lorsqu'on est dans la ville, on a tellement de choses. À chaque fois que je viens à Montréal, je suis tellement stressée parce que j'ai tellement de choses à faire, puis je cours, puis finalement je dors tard. Écoute, mon horaire ne tient plus. Mais le rythme de la ville vous impose un rythme. Lorsque vous montez dans le métro, dans l'autobus, les gens fly, ça va, ça court, ça rentre. Donc, involontairement et consciemment, on suit ce rythme-là, et ce rythme-là devient ce qui est normal. En allant à Tekoa, je me suis rendu compte que non, c'est pas normal. C'est pas normal de courir tout le temps. C'est pas normal de toujours chercher le temps. C'est pas normal d'être toujours épuisé. C'est pas normal de toujours être à bout de souffle. Moi, c'était mon quotidien, c'était ma vie, c'était ce qui était normal pour moi. Mais le Seigneur m'a montré, non, ce n'est pas normal. Tu n'as pas à faire 90 000 choses en même temps. Une seule chose suffit. Et souvent, au travail, la question d'efficacité, d'être multidisciplinaire, d'être multitask, ce qui arrive, c'est qu'on fait tellement beaucoup de petites choses en même temps, mais souvent, on n'a pas le temps de les terminer adéquatement. Puis souvent, ce qu'on va faire, ce sont des choses, on finit par faire nos tâches, mais ces tâches-là sont médiocres. Donc, c'est l'une des choses que j'ai appris, c'est au niveau de l'environnement, le fait d'être retiré de la ville parce que l'école se trouve à Harrisville et on est à 30 minutes de la prochaine ville qui est Keene. Et sur la montagne, c'est magnifique parce que le contact avec la nature est magnifique. Je me lève à 5h30, je sors, je m'en vais à... C'est en hauteur. Et je fais ma méditation là. Et une chose que j'ai remarquée, j'ai toujours été habituée à me réveiller avec mon alarme. Là-bas, en été, du moins, je me réveille avec le son des oiseaux. Lorsque j'entends les oiseaux, puis je sais qu'il est 4h45, 5h. Et c'est peut-être petit à vos yeux, mais ça a tellement une grande importance pour moi parce que d'avoir cette conscience de la nature autour de moi. De respirer de l'air frais, peut-être, si vous habitez en dehors, vous allez voir cette différence-là. De respirer de l'air frais, j'ai vu la différence en tant que telle. J'ai fait 2 semaines à New York pendant le cheminement, puis les 2 premières journées, je suffoquais parce que la qualité de l'air était vraiment mauvaise. Donc, vous parlez un petit peu de mon horaire. À Tekoa, ce que nous faisons, c'est que l'une des choses qui est très essentielle, c'est l'exercice physique. Nous avons dit que True Education, la véritable éducation, c'est le développement harmonieux, physique, mental et spirituel. Pour le développement physique, nous avons des cours d'éducation physique obligatoires 3 fois par semaine, 1 heure de temps. Pour une fille qui n'avait pas fait d'éducation physique depuis des années, puis qui n'a pas été au gym depuis encore plus longtemps, au début c'était oui, c'était vraiment difficile. Et c'est pas des exercices, c'était au début. Et puis on voit comment ce que Dieu nous a recordé, parce que des fois, juste pour faire des dips, c'est pas capable. Et après 2 mois, tu vois, tes muscles se forment. Et c'est la même chose sur le point spirituel. Au début, vous essayez de comprendre les choses, ça ne fonctionne pas, mais plus vous persévérez, votre esprit devient plus éveillé. Donc, nous avons un des programmes d'exercice physique tous les matins, 1 heure de temps. Et par la suite, nous avons 2 heures de temps qui est dédié à des tâches. Il y a différentes équipes. Il y a une équipe qui s'occupe des tâches ménagères, le nettoyage des lieux communs. Une autre équipe, nous faisons nous-mêmes nos repas. Et tous les repas sont des repas végétaliens. Donc, nous faisons nous-mêmes une équipe qui fait les repas, une équipe qui fait ce qu'on appelle la maintenance du building, c'est-à-dire que tout ce qui est réparation, tout ce qui ne fonctionne pas dans le building, c'est nous qui prenons ça en charge. Comme par exemple, si on doit, pour donner des exemples, on doit aménager une pièce, c'est nous qui allons faire. Si on doit construire des choses pour le bien-être de tout le monde, bien, c'est nous qui sommes en charge de ça. Par la suite, après ces deux heures de temps-là, à ce moment-là, nous avons une dévotion commune. Tout le monde ensemble, parce que chaque personne est responsable d'amener une courte méditation. Et nous avons le repas qui est par la suite. C'est étonnant de voir comment est-ce que le Seigneur, 1 an après, m'avait déjà préparé, parce que là-bas, nous avons 2 repas par jour. Au début, je me disais, oui, comment je vais faire pour m'habituer à 2 repas par jour? Puis c'est tellement fun, parce qu'au début, j'arrivais au déjeuner, je mangeais. Je me disais, il faut que je sois en mesure de tenir jusqu'à 3h, parce que notre premier repas est à 9h30, le deuxième est à 15h30. Et je me disais, je ne vais jamais être capable de tenir. Mais étonnamment, le corps s'habitue relativement bien. Et vous devez faire l'expérience aussi. Bon, je vous encourage à faire l'expérience aussi d'avoir 2 repas par jour si vous le souhaitez. Et faites juste l'expérience, vous allez voir, vous n'allez pas mourir. Et que vous prenez le temps de bien équilibrer vos repas, vous êtes capable de tenir très comme il faut. et aussi adapter, par la suite, on peut s'en parler, adapter vos menus par rapport à votre fonction, par rapport au travail, c'est important. Donc, après l'exercice, bon, nous avons ce que nous appelons les cours. Une chose qui est intéressante, et Lenoise, elle parle, l'une des recommandations qu'elle disait, c'est qu'il n'est pas bon pour, il n'est pas bon que nous ayons trop de cours à la fois. Rappelez-vous, au cégep, combien de cours avez-vous?
Moi, j'en avais 8.
7-8. C'est ça. 7-8 cours différents dans la semaine. À l'université, j'avais 4 cours différents dans la semaine. Ce qui est énorme. Et Lenoise, elle parle de ça, elle nous dit qu'il est préférable pour le mental que le cerveau se fixe sur un sujet. Et une fois qu'il est fixé sur ce sujet-là, vous exploitez ce sujet-là à fond et par la suite, vous passez à un autre sujet. Donc, c'est ce modèle-là que nous avons. C'est que nous avons un cours par jour qui est de 11h à 14h, 11h à 14h50. Et dans ce cours-là, ben, c'est un cours, par exemple, on a différents cours. Au début, nous avons un cours sur le sanctuaire qui était 6 semaines. Et quand je dis les cours, c'est une fois par jour. Donc, pendant 5 jours, nous avions un bloc de 4 heures sur le sanctuaire. Donc, les cours que nous avons eus jusqu'à maintenant, lorsque vous faites votre première année, c'est le sanctuaire, c'est anatomie et physiologie, ce que je suis en train de faire présentement. Nous avons eu Natural Science and Healing Course. Sciences naturelles et guérison. Sciences naturelles et guérison, c'est là que nous apprenons tous les principes de ce qui est de, le mystère de la guérison, de comment fonctionne le corps. Pourquoi est-ce qu'on a conçu des principes de c'est quoi le Medical Machinery Book? Et aussi l'importance également de faire de l'évangélisation, mais de l'évangélisation par le moyen de la santé. L'autre cours que nous avons, juste pour vous donner une idée comme ça, nous avons eu Science de la prière. Science de la prière, nous avons eu... j'ai oublié les cours que j'ai eu. Sanctuaire, prophétie, apocalypse, dress reform. Désolée, les cours. Si vous venez me voir après, je vous dirai sur les autres cours que nous avons. Mais à la base, ce sont tous les cours à l'intérieur de 2 ans, vous couvrez toutes les doctrines de l'Église adventiste. Et c'est là l'une des choses qui est vraiment essentielle, c'est qu'on se rend compte qu'en tant que jeune, on est à l'Église, mais on connaît très peu notre religion. Et aussi, on vous forme à être en mesure d'être capable de l'enseigner et aussi de
la défendre.
La défendre, voilà. Et être en mesure de la défendre. Et on a des très bons, professeurs, Dwayne Lennon, qui est avec nous, il est à Montréal, il dit bonjour en passant, j'ai oublié. Nous avons Dwayne Lemon, nous avons André Waller qui lui s'occupe de tout ce qui est les cours sur la prophétie, Daniel, les classes de Daniel, Apocalypse et tout ça, et Lance Wilbur qui lui s'occupe de tout ce qui est les cours qui sont en lien avec la santé. Donc les cours, la Bible est ce qui est au centre de notre formation. Et on posait la question ce matin. La question, c'est souvent fois, c'est que lorsque nous sommes dans les universités séculières, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, si vous êtes infirmière, vous allez apprendre la physiologie, l'anatomie, la biologie et tout ça. Mais la question, nous, ce que nous faisons avec ça, c'est qu'on a un plus, c'est comment est-ce que la Bible s'applique à cela? Comment est-ce que... quelle portée spirituelle tout ce que nous apprenons, découvrir quelle est la portée spirituelle de tout ce que nous apprenons. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et comme dans tout collège, on a des examens, on a des tests, on a des lectures à faire, et aussi Un professeur, il nous donne des rating, il donne des notes, mais cette note-là, c'est pas pour te comparer avec les autres, mais c'est juste pour toi, pour que tu puisses t'améliorer de plus en plus. Mais tu coules un test, tu le refais tout simplement. Tu n'as pas cette pression comme dans une école séculière. Évidemment, il faut que tu réussisses tes cours parce que sinon, tu peux pas, si tu n'as pas compris ta matière, tu ne peux pas passer au niveau 2. Mais la pression est différente en tant que telle. Il n'y a pas cette compétition entre pairs où est-ce que je dois être le meilleur pour pouvoir être cette position, être premier de classe ou quoi que ce soit. On n'est pas à ce niveau-là, puis il y a beaucoup d'entraide également entre nous. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, la Bible est au centre. La Bible est vraiment au centre de ce que nous faisons. Nous avons un programme de jardinage et de menuiserie. Donc, après le cours, nous avons le dîner. Et après le dîner, nous avons travail manuel. Et ça, c'est intéressant parce que ça suit encore le principe de des premières écoles, qui est la véritable éducation. Ellen White, elle recommandait que les jeunes ne passent pas autant de temps dans leurs livres, mais ils doivent être habiles de leurs mains. Et j'ai remarqué cette différence-là parce que, par exemple, lorsque vous êtes au travail, moi, je faisais un travail qui était très mental. Donc, je pouvais passer 8 heures de temps, 10 heures de temps dans mon bureau à faire des appels, à aller au fax, à rencontrer les gens, à parler, à tout ça. Mais tout ça, ça reste mental. Et je suis dans un bureau assise à longueur de journée. Donc, moi, j'ai remarqué la différence dans mon bien-être à moi. Le fait de, après manger, là, on a un travail physique à faire. Je remarque que ma concentration est meilleure également au fur et à mesure. Le travail manuel que nous avons deux choix de travaux manuels, c'est soit le jardinage ou soit le programme de menuiserie. Et c'est fascinant de voir que à quel point qu'avec la menuiserie, on peut faire tellement de choses. Ils font des meubles. Il y a le professeur Éric Pérez, lui, il a sa propre compagnie de menuiserie et c'est lui qui enseigne les rudiments de la menuiserie et tout ça. Donc, on l'aide à bâtir des meubles. Il fait des commodes, des caissons, des chaises, tout ce que vous avez besoin, tout ce qui est en bois, il est capable de le faire et c'est vraiment magnifique ce qu'ils sont capables de faire. L'une des leçons que je retire de cela, c'est que beaucoup de personnes qui sont en ville ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts. Et je parle spécifiquement pour... OK, je parlais premièrement pour les hommes. Beaucoup d'hommes ne savent pas peinturer, ne savent pas clouer un clou, ne savent pas comment réparer, tu sais, plomberie 101, ne savent pas comment faire. Ne savent pas, par exemple, si vous êtes dans une maison, vous voulez agrandir votre maison, comment défaire, mettre à terre un mur, faire les joints et tout ça. Et c'est une très grosse lacune que nous avons parmi nos hommes, parce que nos hommes sont très informatique, très manuel et tout ça, mais en ce qui concerne les travaux manuels, ils ne sont pas. Et quand vous réfléchissez à ça, ça fait peur un peu parce qu'on reste dépendant des spécialistes, on reste dépendant. J'ai fait venir un plombier chez moi un jour, il est resté là, il a débouché ma salle de bain en 15 minutes, puis j'ai payé 120 $. J'ai pas aimé ça. Réparer, puis vous devez vous mettre en mesure en fait que lorsque vous avez une maison, il y a plein de réparations. Si vous n'êtes pas capable de faire les choses par vous-même, ça vous coûte très cher. À un moment donné, je voulais juste réparer la serrure, j'ai dû faire appel à quelqu'un. Okay, j'ai regardé comment la personne faisait, puis après ça, j'étais en mesure de le faire moi-même. Être en mesure de changer son thermostat, prendre des thermostats, vous savez, les anciens thermostats en rond, puis après ça, de mettre. Avoir une maison, moi, ça m'a permis d'apprendre à mettre un chauffage. Et je suis capable de prendre mon chauffage qui ne fonctionnait pas, de le franchir. C'est simple, moi je ne savais pas le faire. Mais pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est très simple, vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour faire ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très manuelles et que les gens ne savent pas faire. Et comment est-ce que vous allez faire lorsque les choses vont être plus dures? Parce que, ne vous leurrez pas, les choses vont devenir plus dures. On est dans notre travail présentement. Qu'est-ce qui va arriver un jour si nous avons une crise économique et vous perdez votre travail? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas d'argent pour être plombier. Vous n'avez pas d'argent pour être un électricien. Je n'ai jamais été formé pour le faire. Je ne savais pas travailler le bout du doigt. Posez-vous la question. Mesdames, également, vous devez savoir, nous devons savoir, vous devez savoir comment les rudiments d'une maison, faire à manger, c'est un must, c'est essentiel. Et être capable d'entretenir sa maison, de faire de la couture, vous savez, ces choses... Nous devons être capables, pas que ça se réserve l'un ou l'autre, pas que ça exclusivement c'est pour des hommes, exclusivement c'est pour des femmes, mais vous devez être en mesure de vous débrouiller. Le jardinage, c'est vraiment très intéressant parce que de là-bas, on a appris à planter, on avait deux serres, on a appris à faire germer tous nos légumes, à partir de graines, à l'intérieur. Par la suite, on les a transplantées. Pendant la saison, désolée, je n'avais pas les photos, pendant la saison, on a planté, pendant la saison de récolte, on avait du kale, on avait des courges, des citrouilles, des tomates, jusqu'à maintenant encore des tomates, des zucchinis, concombres, betteraves, absolument, on avait des betteraves, des laitues, tout ça. C'est nous qui faisons tout ça. Et pour moi, c'était mon premier contact, disons, formel avec la terre, apprendre comment faire pousser ces légumes. Parce que, encore là, il faut toujours se mettre, tu sais, ce qu'on apprend, c'est de se mettre dans un état d'esprit que, à un moment donné, on ne pourra plus. On ne peut plus rester en ville. C'est sûr qu'en ville, c'est plus difficile de faire du jardinage parce que nous sommes dans des espaces restreints, on est sur un balcon, on n'a pas d'espace vert. Mais même là encore, moi, je vous encourage à apprendre à faire les rudiments, à apprendre les rudiments du jardinage et être en mesure de faire ça par vous-même. Le jardinage, la menuiserie. Donc ça, nous avons ce manual training 2 heures par jour, 2 heures de 5 à 7, et par la suite, de 17h à 19h, et par la suite, le temps était mis. Une chose que j'ai appris, c'est d'avoir une routine dans ma vie. Lorsque j'étais à Montréal, je n'avais pas de routine. Je sortais du travail, je travaillais 8 heures ou 10 heures de temps. Après ça, j'avais rencontre à ci, rencontre par là. Je rentrais à la maison à 10, à 10 heures. Le temps de faire mes affaires est déjà 11 heures, 11h30. Après ça, j'allais me coucher pour me lever à 5h30, pour avoir un petit moment de dévotion. Ça, c'est quand j'étais capable de me lever. Puis, on recommençait à travailler. Et puis là, vous avez la famille, vous avez tous les... Donc, on apprend les différents messages de la santé. Vous savez, les 8 lois de la santé, le repos fait partie de ça. Et savez-vous que vous devez vous coucher à des heures régulières? Et j'ai appris à me coucher à des heures régulières. Et si vous savez le bienfait que cela peut vous faire, on dit que se coucher avant 10 heures, c'est ce qui est meilleur pour favoriser le sommeil. Mais avoir, en étant à Tékoua, ce que ça m'a appris, c'est d'avoir une structure. C'est comme que je recommence je réapprends finalement à vivre selon les principes que Dieu, nous a donnés. Autre chose, le programme de colportage. OK, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois par semaine, le dimanche, nous avons une activité à Twitch, où on va à l'extérieur, on va passer des pamphlets, on fait des sondages et tout ça. Pendant l'été, nous avons eu 10 semaines, c'était 2 mois de colportage. Et le colportage, ça a été la peur de ma vie avant même que je commence à rentrer à tes cours. Parce que je savais que c'était obligatoire. Et avant de rentrer à tes cours, j'avais tellement de peur. Peur parce que, un, je m'en vais, parce que j'étudiais en anglais. Et l'anglais, moi, ça n'a jamais été vraiment très fort. Et j'ai jamais aimé les États-Unis. J'ai jamais eu le désir d'aller. Pas que j'ai jamais aimé les États-Unis, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai jamais eu de désir d'aller aux États, ni de, comment dire, étudier en anglais ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur m'a amené là, puis ça, c'était l'une de mes craintes parce que. Quand je parlais, j'ai toujours l'impression que les gens de Jbaragouin disaient « Seigneur, comment est-ce que je vais faire frapper au port pour expliquer aux gens ce que je fais et tout ça. » Mais le Seigneur a été vraiment avec moi. Et si vous voulez avoir dans votre vie une expérience d'humilité, si vous voulez apprendre à connaître Dieu, si vous voulez apprendre à savoir quelle est la volonté de Dieu et apprendre à être à son écoute, vous devez faire du reportage. Je vous invite à tout le monde de faire le reportage. Je me rappelle en 2010-2011, lorsque Jonathan parlait du reportage, moi j'avais dit, non, oui, je ne fais pas ça. Déjà, juste à l'église, vous savez, lorsqu'on doit aller frapper aux portes, donner des petits pamphlets, mettre ça dans la boîte aux lettres, je n'ai pas de problème. Frapper aux portes, c'est une autre chose. Et c'est à travers ce programme de reportage pendant l'été que j'ai appris beaucoup sur moi-même. Et j'ai aussi appris en ce qui concerne mes motivations personnelles par rapport à Dieu. Souvent, je crois, nous allons à l'église, mais quelles sont nos motivations? Souvent, je crois, nous allons à l'église, c'est pour être reconnus, valorisés. Nous voulons que les gens nous disent, hey, tu as bien fait ça, tu as bien joué, puis tu sais, tu t'en viens, puis on continue. Ou bien on fait les choses parce qu'on veut que les gens nous apprécient en tant que tel. Donc, il y a eu beaucoup de réquestionnements à travers le programme de transportage. Une chose que le programme de colportage est fantastique parce que là, vous voyez à quel point que Dieu vous utilise pour aider quelqu'un. Dieu vous utilise, là vous voyez à quel point que vous êtes utile à Dieu. Le Seigneur a besoin de vous. Non pas qu'il aurait pu utiliser n'importe qui, il aurait pu faire les roches parler. Non, le Seigneur te prend toi, malgré tes faiblesses, malgré tes lacunes, il te prend et il te dit, vas-y, je vais être avec toi. Il y a une expérience qui m'a marquée lorsque je faisais du colportage. Parmi les livres que nous vendons, on a un gros sac en passant. Et lorsqu'on sort, on sort pour 6 heures de temps, 7 heures de temps. Et imaginez, c'est de l'exercice physique. Il faut être en forme. Parce qu'on marche. 7 heures, 6 heures de temps, on frappe aux portes, on monte des escaliers, on descend. Si vous n'êtes pas en forme, je remercie, c'est maintenant qu'on voit à quel point que l'exercice physique qu'on a fait pendant 5 mois avant, ça a été très bénéfique, très préparé pour ça. Et à un moment donné, j'ai été voir un monsieur et il y a une chose que je n'aime pas, c'est de parler aux gens lorsqu'ils sont dans leur auto parce qu'ils sont pressés et puis ils veulent juste partir. Donc, j'ai dit, ah, laissez-le partir, je vais frapper à la porte, peut-être que sa femme est là. Je frappe à la porte, il n'y a personne. Je redescends, puis là, il m'attend, puis il me regarde, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je lui dis, ah, monsieur, bon, je suis étudiante, je lui présente un livre. La valeur du livre, la valeur du livre est de 10$. Là, je lui présente le livre, il me dit, ah, ok, mais laisse-moi aller voir qu'est-ce que j'ai à la maison. Je ne lui ai pas dit c'était quoi le livre, je lui ai pas dit le prix du livre. Donc, lorsqu'il revient, lorsqu'il s'en va, je disais, ok, bon, il va sûrement me donner 10$, puis je vais lui présenter un deuxième livre. L'une des choses qui est super intéressante dans le reportage, c'est que nous avons des livres spirituels comme aussi des livres sur la santé. Le livre le plus important dans votre livre, dans votre sac, c'est la tragédie des siècles. Parce que c'est ce livre qui renferme tout le plan de la rédemption. Et c'est ce livre-là que vous voulez qu'il soit dans les maisons, pour que les gens puissent lire et puissent comprendre que Jésus revient, qu'il doit se préparer, qu'il faut se réveiller. Et c'est le livre qui est le plus difficile à vendre également. Donc là, je me prépare mentalement à essayer de lui refiler une tragédie des siècles. Il revient et puis il met de l'argent dans ma main, puis je regarde. Il y a 100 $ dans ma main. Là, je regarde le monsieur, je dis, « Ah, monsieur, vous savez que vous m'avez donné plus que la valeur du livre. » Il dit, « Ah oui, c'est bien. Okay. Ben, vous savez que je pourrais... » Puis là, je lui dis, « Ben, monsieur, avec 100 $ je pourrais vous présenter tous les autres livres que j'ai aussi. » Fait que là, je dis, « Ah oui, ben, venez. » Et là, il m'amène derrière, sur sa galerie en arrière, on s'assoit. Comme ça, on était des amis depuis longtemps, puis je lui parle de tous les livres, puis je lui parle, je vous présente tel livre, ça c'est bon pour ci, ça c'est bon pour ci, ça c'est bon pour ça, ça fait ça. Puis on parle, puis je lui dis, ben, monsieur, est-ce que vous accepterez de me donner votre nom, votre adresse? J'aimerais ça juste vous envoyer une carte de remerciement pour le don que vous avez fait. Il dit, oh, pas de problème, il écrit son nom, je vois, je ne vais pas dire son nom, mais soit son nom, je dis, hey, vous êtes Québécois? Je dis, ah oui, oui, je suis Québécois, oui, je suis Québécois. Puis là, il me dit, oui, j'ai habité dans le temps à Trois-Rivières et tout ça. Et là, parlant avec lui, c'est fascinant comment est-ce que le contact avec les gens que vous avez peut les amener à être en confiance avec vous et surtout à vous, certaines fois, vous révéler des choses d'eux-mêmes et à ce moment-là, vous saisissez ces petits moments-là pour les édifier, pour les amener plus proche de Christ. Puis, on a parlé tellement et puis après ça, il me dit « Ah, est-ce que je peux te donner un autre don? » Sure. Donc, dans la tête, je lui dis « Ok, bon, il va me donner un petit 10, un petit 20. » Quand il revient, il met un paquet de billets dans mes mains, je regarde, je compte, il m'a donné 400 $. Là, je regarde, là je décope, j'étais émue, puis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Le monsieur venait me donner 500 $ pour une valeur de 80 $. Les livres qu'il avait dans les mains, c'est une valeur de 80 $. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette expérience-là? C'est parce que quand on veut être utilisé par Dieu pour son service, il a des moyens tellement extraordinaires de se révéler à nous puis de nous utiliser. Et à travers ça, il nous montre aussi, il me montrait au bête, arrête de t'inquiéter pour l'argent. Parce que lorsque, vous savez que je suis allée à Tekoa, je n'ai pas de travail et donc je n'ai pas de revenus en tant que tel. Donc tout est vraiment très, 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 très calculé. Et je me rappelle, à un moment donné, je me plaignais au Seigneur, puis je lui disais, écoute, Seigneur, je veux pas que tu fasses quelque chose. C'est comme, j'ai pas d'argent pour ça, j'ai pas d'argent pour ça. J'ai des filles à faire, j'ai des filles à faire. Et le Seigneur, c'est comme, et puis là, le Seigneur me dit, arrête de t'inquiéter. Quand je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, arrête de t'inquiéter pour ta situation financière. Je vais prendre soin de toi. Ça, ça a été une expérience vraiment marquante pour moi. De la même manière qu'à un moment donné, le corps potable, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez frapper à la porte, et puis à un moment donné, la personne a dit, vous devez présenter vos livres, la personne a dit, oh, je ne me sentais vraiment pas bien aujourd'hui, puis là, vous arrivez, j'ai l'impression que vous êtes un ange. À un autre moment, un de mes collègues, il a vu une dame qui était dans la rue, elle était assise sur le trottoir, et puis il a commencé à lui parler, hein, comment ça va, puis la dame a commencé à fondre en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est sentie en confiance. Puis, cette dame-là, elle allait se suicider dans la minute qui suivait. Et le fait que nous étions là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, le Seigneur a pu nous utiliser pour cette personne-là, parce que cette personne-là est une âme à sauver. Certaines fois, nous négligeons, nous minimisons les efforts que nous faisons auprès des gens. Des fois, on est gêné, on ne veut pas parler de Christ parce qu'on a peur de paraître extrémiste, on a peur de la réaction des gens. Mais savez-vous que juste le fait de parler de Christ à quelqu'un, comment est-ce que vous pouvez éloigner tellement de démons de cette personne-là? Juste le fait de parler de Christ avec quelqu'un, même si que le visage de cette personne-là semble n'être pas vraiment réceptif, mais cette graine que vous avez plantée dans le cœur de cette personne ne fait que vous va germer, va aider cette personne-là pour les autres moments, dans les moments difficiles que cette personne va avoir. J'ai eu d'autres moments où est-ce que, à un moment donné, je frappe à la porte d'un monsieur, puis je lui présente les livres sur la santé, il n'est pas intéressé. Après ça, je lui dis, est-ce que vous êtes chrétien? Il dit oui. Puis après ça, il arrive, puis il me dit, je commence à lui présenter ce trajet du décès, je lui demande, est-ce que vous connaissez le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est quoi ça? Là, je commence à lui expliquer qu'est-ce que c'est, breakdown, le sanctuaire, ta. Puis je crois que le Saint-Esprit, c'est pas que je crois, le Saint-Esprit était vraiment là parce que d'écrire en l'espace de 3 minutes le plan de la rédemption, du début à la fin, le monsieur après, il a dit, oh, je peux voir Christ en toi. Il y a de ces moments forts lorsque vous faites du colportage que c'est juste divin. Et ce n'est pas vous qui le faisiez. Certaines fois, on va faire du colportage juste pour ramasser de l'argent. Et c'était mon cas à moi au début. Je voulais faire le colportage juste pour, OK, bon, j'ai besoin d'argent pour payer mes frais scolaires. Donc, je vais faire ce qui est possible. Et le Seigneur m'a dit non. Le colportage, ce n'est pas une histoire d'argent. Il y a des âmes qui sont là. Et ces âmes-là, ils ont besoin que tu prennes soin d'eux. Et avec ces expériences-là, le Seigneur m'a montré à quel point que j'étais égoïste. Souvent, on fait les choses juste pour dire, OK, je l'ai fait, mais on n'est pas conscient, on n'est pas soucieux. On n'est pas soucieux de la vie spirituelle de cette personne. Et ça te confronte également parce qu'on a tous des voisins et des voisines. Est-ce que ces voisins-là savent que vous êtes Seven-Day-Adventist? Est-ce que ces voisins-là, vous les saluez? Est-ce que ces voisins-là, ils savent en quoi vous croyez? Et pourtant, ces gens-là, ce sont les gens qui sont le plus proches de nous. Donc, malheureusement, ça, c'est l'une des choses qui me fait le plus la peine, c'est qu'au Québec, en français, on a très, très peu de ressources, et le programme de colportage, nous n'en avons pas. Une chance que si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours voir Jonathan Dutta avec le programme. Mais je vous assure, la aubaine que j'étais avant le colportage et après le colportage, ce n'est pas la même. J'ai fait comme une croissance spirituelle de 110%. Apprendre à dépendre de Dieu. Quand vous frappez à la porte, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Il y a une fille, à un moment donné, elle a ouvert la porte, le monsieur était flambant, lui était là, c'est comme ça. Un autre, et puis c'est, je ne veux pas dire que c'est dangereux, mais ça a son risque de périr. À un moment donné, il y a une dame qui était, elle était tellement méchante qu'elle a envoyé les chiens vers la porte. Mais le Seigneur veille, parce que moi aussi, des fois, j'ai peur des chiens, à un moment donné, c'est comme, il y avait un quartier qu'on est allé, et oh, c'était étranger, parce que c'était tout un quartier riche. C'était tous des gens qui sont riches. J'ai pas compris pourquoi chaque maison, ils avaient 2-3 chiens. Ils avaient des gates. Ils avaient des barrières, je ne comprenais pas. Et quand vous allez dans les quartiers pauvres, ben, il n'y a pas de chiens non plus. Donc, c'est pour vous dire que, lorsque un moment donné, j'ai frappé à la porte, et j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Mais qu'il y ait un chien ou pas, j'y vais. Le chien est arrivé, il courait, il j'appelle après moi, je continue à marcher, je marchais, je l'occupais pas. Et puis, il court après moi, il reste derrière moi, je marche, je sonne à la porte. La dame, elle arrive, elle ouvre la porte, elle me regarde avec un air, comment t'as fait pour passer ici? Parce que si vous avez vu le chien derrière, il ne serait jamais rentré dans son plateau. Et quand je suis retournée, et quand je repartais, parce que finalement, elle ne voulait rien savoir, j'ai senti le chien faire un jump, mais c'est tout ce que je sais. J'ai juste continué. Pour vous dire que quand vous êtes vraiment déterminé à faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur est là pour vous protéger. Lorsque malheureux crie, l'Éternel entend, il vous délivre de toutes ses détresses. Et le Seigneur vous assure sa protection. Mais pour ça, vous devez avoir le désir de vouloir faire son travail. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. L'une des choses que nous apprenons également, c'est nous donnons des cours de cuisine végétalienne, à chaque mois. Et ça fait partie de l'œuvre du ministère de ça fait partie de l'œuvre du Medical Missionary Work. C'est-à-dire que ce que nous apprenons, vous savez que le missionnaire médical, Ellen White dit que c'est le bras droit de l'Évangile. Pourquoi? Parce que là où est-ce qu'un prédicateur ne peut pas aller, un livre va rentrer dans un foyer. Là où est-ce que les gens ne veulent pas entendre parler de Christ, mais ils vont accepter de recevoir un livre sur la santé. Là où est-ce que les gens ne veulent pas savoir, rien savoir de la religion, mais ils vont accepter d'entendre parler de remèdes naturels. Et c'est là la beauté de la formation, c'est parce que à travers les remèdes naturels, à travers l'hydrothérapie, oh, ça c'est l'un des cours que nous avons eu, là je me rappelle, remèdes naturels et hydrothérapie, à travers ces cours-là, à travers ce que nous donnons à la communauté, nous sommes capables de prendre les faits et d'après ça, de les amener à Christ par rapport à ça. Et les amener à un enseignement biblique et puis de leur montrer que, hey, vous savez, si vous mangez sainement, c'est pas juste pour faire profiter de votre corps, c'est pas juste pour faire avoir des nutriments, mais c'est parce que votre corps, c'est le temple de Christ. Et souvent, dans la communauté, on fait des cours de cuisine et il y a des gens de la communauté qui viennent, on leur donne des samples, des échantillons de nourriture que nous faisons et ils apprécient beaucoup. Et il y a même une dame qui, une fois, elle est venue puis elle a dit, elle disait que je ne savais pas que, à quel point que la santé, les aliments avaient un impact sur ma santé. Après le cours, elle a commencé elle-même à changer son alimentation. Mais en plus de cela, elle est allée dans son travail. Elle a parlé de ce que, tu sais, juste les quelques recettes, les principes qu'on lui a appris, qu'elle a apprises. Elle a partagé ça avec son travail. Et dans son travail, ils ont commencé à faire le changement des menus pour les résidents qui étaient là. En une séance. Et puis ça, je crois que cette journée-là, ce qu'on avait fait, c'était du fromage, c'était de la mayo, des choses comme ça. Mais c'est pour vous montrer que des fois, on pense que c'est des choses, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des cours de cuisine, nous pouvons faire des massages, nous pouvons faire de l'hydrothérapie. Nous pouvons enseigner aux gens comment prendre soin d'eux-mêmes avec des remèdes naturels. Combien de personnes pour un mal de tête ils vont prendre Tylenol sans réfléchir et penser oh pourquoi est-ce que j'ai pris de l'air est-ce que j'ai bu assez d'eau donc c'est les amener à réfléchir qu'il y a d'autres moyens plus efficaces de se soigner en fait, qu'on doit d'abord penser avant de commencer à prendre des pilules ça également ce que nous faisons ce sont des expos santé. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les choses que nous faisons, ce sont les étudiants qui le font. L'Expo Santé, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où est-ce qu'on a les 8 lois de la santé et c'est comme il y a des présentoirs. Et là, les gens, ils arrivent et ils font le tour de chaque présentoir, de chaque loi. Et là, on les enseigne, on les enseigne par rapport à ces lois-là. En tant que tel, et on avait un médecin qui venait parler sur le diabète et encourager les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Souvent, quand on est limité, on ne sait pas quoi faire, mais un livre que je vous recommande, c'est en anglais seulement, A Call for Medical Missionary, A Call for Medical Work. Et ça vous enseigne à quel point qu'il y a tellement de choses à faire pour la communauté. L'une des choses qui est essentielle, c'est que tout ce que nous faisons, toutes les activités, ce sont les jeunes qui le font, ce sont les étudiants. La formation à Tekoa dure au total 3 ans. La plupart des gens, je dirais, font 2 ans. La première année, c'est vraiment théorique. On passe à travers les grandes doctrines de l'Église Et on vous enseigne à ce niveau-là. La deuxième année, vous êtes des leaders. Vous êtes des chargés de projet, comme par exemple des chargés pour des expos santé, pour les séminaires sur la santé, on fait des séminaires sur la santé. Donc, c'est vous qui êtes, ce sont les leaders de deuxième année qui sont responsables de ça. Mais chacune des activités, ce sont les jeunes qui le font. Donc, on vous entraîne en ce qui concerne le leadership, et on vous entraîne également à mettre en place des activités que vous allez pouvoir par la suite faire. Nous avons aussi d'autres cours qui sont à côté, comme par exemple faire du pain, de la couture, faire du canage que nous avons fait. Nous avons eu un cours de massothérapie. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous apprenons dans le but de nous outiller afin que nous ne soyons pas des gens qui sont dépendants des uns et des autres, mais pour que nous soyons en mesure de nous souvenir nous-mêmes. Juste avant, beaucoup de personnes, je vais dire quelque chose, je vous dis qu'il est un moment. Le trade, est-ce que je vais parler de trade? On vous encourage aussi d'avoir un trade qui est une profession. C'est-à-dire à ne pas dépendre uniquement d'un travail institutionnel. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne pouvez pas travailler, vous avez un accident de travail, vous avez une maladie, vous perdez votre emploi, comment vous allez faire pour subvenir à vos besoins? Est-ce que vous êtes capable de travailler de vos doigts? Et puis ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. C'est juste de vous trouver quelque chose qui vous intéresse. Ça peut être, je vais faire du pain, puis je vais pouvoir subvenir à mes besoins par rapport à ça. Il y a des gens qui font des cosmétiques. Il y a des gens qui font tellement de choses. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment importante, c'est être en mesure de se souvenir soi-même. J'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, quoi faire? Vous entendez parler de celle de missionnaire médical et vous vous demandez, mais OK, mais j'entends parler de la véritable éducation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est l'essentiel aujourd'hui. On fait quoi? Où est-ce qu'on en est? Moi, ce que je vous recommanderais, c'est tout d'abord développer une relation avec Dieu. Proverbe 23, verset 6 nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donc, apprenez à parler à Dieu et dites-lui, « J'entends beaucoup de choses, j'ai envie d'être à ton service, je ne sais pas comment le faire, mais Seigneur, je veux avoir cette relation avec toi et je veux être à ton écoute. » Et également, faire confiance au Seigneur. Le Seigneur a différentes manières de nous soutenir. Moi, ma crainte, c'était une crainte financière. J'avais peur de ne pas être en mesure de subvenir à mes besoins parce que je ne travaillais pas. Le Seigneur me montre constamment, à chaque fois, arrête de t'inquiéter pour ta situation financière, je suis avec toi. Et le Seigneur promet également de nous accompagner dans toutes les sphères de notre vie. Je vous ai mis juste quelques exemples également. Moi, je vous ai parlé de Tekoa parce que c'est ce que je connais. Mais il y a aussi d'autres écoles qui existent. Et c'était l'une des choses que j'étais déçue, c'est de savoir, au début, je voulais rester au Canada pour avoir le training. Mais un training à ce niveau-là en tant que tel, et je ne l'avais pas trouvé au Canada, c'est pour ça que je suis allée aux États-Unis. Mais on a, avec Jonathan, Kelf? C'est en ligne. Ok, je savais pas. Donc, mais on a, c'est missionnaire médical ou c'est. Oui? Donc, vous avez des formations en ligne qui se donnent. Donc, prenez le temps, vous pouvez visiter les sites web de ces institutions-là. C'est sûr que c'était aux États-Unis. Et moi, j'avais peur de l'anglais, de ne pas être capable de me débrouiller. Mais je vous assure, le Saint-Esprit délivre votre langue. Les gens finissent par vous comprendre. Et même que des fois, quand je frappais aux portes, ils me disaient, tu n'es pas d'ici, hein? Non. Et ils sont quand même intéressés à vous aider. Des écoles d'évangélisation, vous avez Arise, vous avez l'AFCO qui appartient à Amazing Fact. Où est-ce que vous apprenez à être des étudiants bibliques et tout ça? Dernière chose,
Et également, restez ferme dans votre décision. Parce que, sur un toit, on veut prendre cette décision-là, puis on n'est pas capable. Le Seigneur nous encourage à prendre la décision. Je veux aujourd'hui te donner mon cœur. Je veux aujourd'hui me lancer, je ne sais pas où, mais le Seigneur nous dit, prends la décision. Et moi, c'est l'encouragement que je fais à tout le monde. Les gens du monde, que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail, que représente un an dans votre vie, c'est une expérience de vie de 75 ans. Tout le monde, les non-chrétiens, ils prennent une année sabbatique pour aller voyager, pour aller faire ci. Pourquoi ne pas prendre une année sabbatique pour se former?
Amen.
Et ça coûte quoi dans votre temps? Parce que dans notre mentalité, ben, à tel âge, il faut que je sois rendu à tel niveau. Il n'y a pas ça dans le plan de Dieu. Ce n'est pas à tel âge, tel niveau. Le Seigneur veut que tu sois à telle direction, dans tel point. Mais il veut surtout que vous soyez formé. Donc, moi, c'est un encouragement que je vous donne. Pensez-y. Ça vaut la peine. Parce que moi, j'aurais jamais pensé que je sortirais de mon petit Montréal avec ma famille et mes amis pour être dans un pays étranger, dans une langue étrangère, sur une montagne. Ésaïe 49, je vais juste terminer avec ça, parce que Florinda est là. Ésaïe 49, verset 9. Verset 6. Ésaïe 49, verset 6 nous dit, il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Réfléchissez, c'est peu que vous soyez appelés adventistes du septième jour. C'est peu que vous soyez appelés adventistes du septième jour. Et que vous travaillez au niveau de l'Église. Le Seigneur, lui, vous établit pour être la lumière des nations et pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ça votre mission générale. Maintenant, vous devez déterminer quelle est spécifiquement votre mission. Et c'est vers cela que le Seigneur vous dirige. Pardon? Oui, j'ai quelque chose à poser, mais...
Dans 30 secondes.
Ou plus.
Ah, ça, je
peux faire. Ben, en fait...
Je peux témoigner de ces livres-là aussi. C'est ça que je te permets.
j'espère que cela vous a un peu ouvert l'esprit en ce qui concerne ce que nous faisons. Oh, Dieu, je voulais vidéo. Oh, non.
Ben, après, on a une pause, au moins, juste
pour les
téléphones.
Je vous montrerai la vidéo par la suite. Give Them Something Better, ça c'est un livre de recettes que nous vendons à l'école, qui est un de nos best-sellers au niveau des livres de santé. Donc j'en ai amené quelques-uns avec moi. Vous savez, l'année dernière, on a mis beaucoup l'accent sur avoir la cuisine santé. Et beaucoup de personnes, ils veulent changer leur alimentation, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc, dans ce livre-là, les recettes sont très simples. C'est vraiment très, très coloré. Et pour la plupart des gens qui ont essayé les livres, ils vont vous dire que les recettes sont vraiment délicieuses. Et à l'école, c'est le livre que nous utilisons majoritairement. C'est vraiment très winner. On apprend à faire, vous savez, les mayonnaise, la moutarde, du ketchup. Vous savez, les condiments, c'est des choses qui sont les plus difficiles lorsqu'on est végétalien. À faire vos propres steaks, mais à faire vos propres viandes végétariennes. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous encourage. La formation que je fais, je ne sais pas où est-ce que ça va me guider. C'est comme si que depuis longtemps, je cherchais ma mission. Maintenant, je sais que je suis à la bonne place. Et c'est ça que la bénédiction, c'est que j'ai l'assurance que je suis là où le Seigneur veut que je sois actuellement. La mission spécifique, c'est encore un petit peu flou parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut spécifiquement que vous fassiez. Donc, j'espère que cela a été
instructif pour vous.
Merci. Merci.